bienvenue dans notre émission Parlons Foot, fréquencier 97.9 FM, aujourd'hui en présence de Elliot, Enzo et Valentin et moi-même, donc Dylan. Au sommaire, donc interview de Jean-Pierre Pasquier par téléphone, donc il a gentiment accepté donc de recevoir un de nos appels, donc ce sera dans un instant. On parlera de la Ligue 1, de la Ligue 2 et de la Nationale pour la deuxième partie de saison, il y aura quelques résultats. Et on parlera aussi, Eliott nous parlera un peu du Ballon d'Or. Alors, le temps d'avoir Jean-Pierre Pasquier, on va pouvoir commencer par rapport donc à cette deuxième partie de saison. On va commencer par la Ligue 1. Donc, bon, je vais commencer donc par la Ligue 1. Alors, via un simulateur de classement, donc on voit par rapport à notre opinion qui est-ce que l'on voit arriver dans les premières, les dernières places, enfin voilà. Donc via mon classement, donc Saint-Etienne finirait premier en Ligue 1.
Peu probable, en vue de pour l'instant de la saison de Lyon.
Oui,
mais c'est pour toi.
Ils sont qu'à 3 points voilà. De Lyon. Lyon finirait donc deuxième. Ça pourrait être dû aussi à une deuxième défaite de Lyon dans le derby. Troisième place, le Paris Saint-Germain. Quatrième, ce serait Nantes. À 1 point, l'OM, qui finirait cinquième.
Ça sera dur pour Nantes parce qu'il y a des joueurs qui vont partir à la CAN. Et des cadres surtout.
Tout comme à Marseille. Voilà. Monaco, lui, donc, serait sixième. Pour le bas de classement, donc, j'aurais 20e Bastia. À un point de Bastia, donc, il y aurait donc Toulouse. Et puis, j'aurais deux équipes qui suivraient avec 39 points à égalité. Donc, ça veut dire que ça pourrait jouer entre ces deux équipes, donc, entre Nice et Lens. Donc, voilà pour mon opinion sur cette deuxième partie de saison, les équipes que je vois arriver en haut de tableau et en bas de tableau. Et notamment aussi pour les compétitions européennes. On va passer avec toi, Enzo.
Donc moi, je vois bien Marseille arriver en tête, malgré leur petite crise actuelle. Deuxième, Paris. Troisième, Saint-Etienne. Quatrième, Lyon, qui dégringole. Mais qui, là aussi, va avoir des problèmes de CAN, avec Bedimo, par exemple, qui reste un cadre de cette équipe.
Après, il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même une formation derrière qui soutient bien l'équipe depuis ce début de saison.
Et pour ceux que je vois descendre, donc 18e Toulouse, 35 points, 19e Lorient, 34 points, et 20e Caen, 21 points.
On va passer avec Elliot qui va nous donner son opinion.
Donc moi je penserais que Lyon, vu de la saison qu'ils font, ils pourraient terminer premier. Après, soit Marseille, soit Paris. Saint-Etienne qui font un bon début de saison aussi, 5e. Donc en bas de classement, Caen pour moi 20e à descendre. Lens pour moi ils vont réussir à remonter quand même. C'est Evian qui va prendre leur place. Et Metz resterait 19e.
Valentin.
Pour moi Lyon serait champion. Hein. Deuxième Saint-Etienne. Troisième Marseille. Quatrième Bordeaux. C'est le mois de janvier pour eux aussi risque d'être compliqué. Il y a beaucoup de joueurs qui ont parti à la CAN pour Bordeaux.
Pour Bordeaux.
Diabaté qui est blessé.
Diabaté qui est blessé. De toute façon, Diabaté, il n'aurait pas pu s'en servir, je crois.
Oui, non, mais il est quand même blessé. Mais trois mois.
Pour Bordeaux, il faut pas. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de départs. Il faut pas oublier les contacts qu'il a. Pour l'instant, il essaye de faire venir des joueurs aussi, Sagnol. Donc c'est en cours. On ne sait pas encore qui arrivera. Est-ce que c'est les deux joueurs du Bayern en prêt? Est-ce que c'est Sanogo en prêt? Donc il y a plusieurs pistes. Moi j'oublie pas qu'à Marseille il va quand même y avoir deux joueurs qui vont partir à la CAN, notamment Nkoulou, un des piliers défensifs, trois joueurs pardon, oui. Et que ça va pas bien à l'OM depuis la défaite face à Grenoble en Coupe de France, et que l'OM a encore perdu ce week-end face à Montpellier. Donc je pense que Gignac ne suffira pas à porter cette année l'élan marseillais de l'avant.
Il est utile mais faut pas qu'il soit tout seul dans l'équipe quoi. C'est ça le problème.
Payet, c'est plus le Payet du début de saison. André Ayou, bon,
on le voit pas beaucoup.
Voilà, il est bon, mais il part à la CAN. Voilà, il part à la CAN.
Moi, je me rappelle que les seules saisons que Payet avait fait une saison régulière, constante, avec un très bon niveau sur l'ensemble de la saison, c'était quand il était à Nantes. Ou encore à Saint-Etienne, où il en faisait, oui. À Lille, c'était pas des saisons complètement exceptionnelles. De même à côté. Donc, ce sera tout.
Non, Nantes 5e. Pour moi, le PSG arriverait 7e au classement à la fin de la saison. Peu probable, mais on sait jamais.
Avec cette, et on peut le dire, raclée à Bastia 4-2, qu'est-il arrivé aux Parisiens? Et moi, je pense que il commence à oublier un peu les principes du championnat et sont déjà sur le match de Ligue des Champions.
Je pense.
Faut pas oublier que Bastia a montré une grosse envie. et que Paris, après avoir marqué les deux buts, à mon avis, s'est senti.
C'est une erreur.
C'est dit,
faute,
on a gagné le match.
Professionnel, une équipe qui veut devenir la meilleure du monde, ou en tout cas parmi les meilleures, ne peut pas se permettre, après mener 2-0, se prendre deux buts face à une équipe de bas de tableau, surtout.
Qui a montré des valeurs.
Et puis, Palmieri, super reprise de volée, exceptionnelle. Rien à dire.
Magnifique.
Par contre, on peut. Faire signe, Douchez était titularisé, bon, on peut pas faire grand-chose sur les buts.
Sirigu était blessé.
Voilà. Et puis bon, on en a pas parlé la semaine dernière, mais Lavezzi et Cavani donc ne jouent pas avec le Paris Saint-Germain pendant 3 matchs et ont écopé d'une amende. Est-ce que ça peut être aussi parce qu'il y a des tensions au PSG du coup en ce moment même. Laurent Blanc a dit qu'il n'y aurait plus de passe droit, donc tout le monde aurait sa chance. Est-ce que Lavezzi et Cavani, un des deux, pourraient être mis sur la liste des transferts?
Les deux.
Je pense que Cavani était pisté par Arsenal.
Puis les deux qui sont de toute façon pas efficaces avec le Paris Saint-Germain depuis qu'ils sont arrivés.
Si. Attends, la première saison de Cavani, elle est énorme. Enfin, elle est très correcte.
Moi, je la trouve pas énorme pour un joueur qui est déjà plus jeune que Ibrahimovic. Il doit en avoir plus dans les jambes. Et c'était quand même la star du mercato.
Il avait dit quand tu vois sa première saison, c'était avant que Cavani arrive.
Oui.
Il est décisif, il joue en pointe avec Zlatan.
Oui, mais pas tout le temps titularisé.
À l'époque, il y avait Menez,
il y avait Nené.
Nené qui ne jouait pas d'ailleurs.
Donc, il y a des petites pistes qui disent que Lavezzi serait de retour au Napoli.
Et Cavani peut-être à la Roma. Il aurait acheté un appartement, donc ça a de quoi faire rêver les supporters.
Sauf que Paris ont intérêt de recruter, hein, parce qu'il y a Thiago Motta aussi qui peut-être partir.
Oui.
Donc ça leur ferait du mal.
Thiago Motta après c'est déjà plus sur les plans puisque Laurent Blanc a prévu de mettre des joueurs sur la liste.
Il s'y attendait ça.
Motta en fait partie. Il y a un autre joueur j'ai oublié. Par contre Rabiot, il veut vraiment garder Rabiot et Rabiot s'est encore montré décisif avec un but.
Oui.
Il fait Rabiot veut partir.
Il met un but.
Donc justement
but sur combien de matchs qu'il joue il en joue pas beaucoup.
Le fait
hein,
que Laurent Blanc supprime les passes droits va peut-être permettre à Rabiot d'être beaucoup plus titularisé.
Ou Chantôme, qui est un très bon joueur.
Voilà. Donc maintenant, il va falloir être bon pour jouer. Et Chantôme, d'ailleurs, fait partie de ces joueurs sur la liste des transferts, puisqu'ils auront, quoi qu'il arrive, beaucoup de mal à se frayer un chemin. Donc, affaire à suivre pour les Parisiens, où c'est très très chaud là-bas. Hein. Président Qatari, qui doit se tourner les doigts, là, qui doit pas être content.
Petite question, je sais pas si tu sais, est-ce que quand s'arrête le fair-play financier?
Quand
s'arrête.
Le fair play financier, il s'arrête à la fin de l'année pour l'instant.
Ça voudrait dire des possibilités pour recruter.
Oui, bah déjà il y a les possibilités là, puisque donc il faut vendre pour acheter.
Sissoko qui serait pisté. Oui.
Et il leur restait aussi un peu d'argent déjà des derniers transferts qu'ils n'ont pas utilisés. Donc affaire à suivre pour les Parisiens qui jouent en Ligue des Champions. Et à rappeler d'ailleurs que Nasser Al-Khelaifi était à la manifestation Charlie Hebdo et de tous ceux qui sont morts lors des attentats de mercredi dernier. Et il était donc à la manifestation.
C'est bizarre, sauf que Nasser, il est bien présent quand Paris gagne. Mais on le voit pas beaucoup quand Paris ne gagne pas.
Non, la seule fois on l'a vu quand Paris a perdu, c'est quand c'était contre Guingamp et en Ligue des Champions contre le Barça.
Il soutient pas beaucoup les joueurs dans ces cas-là quand ça perd.
Moi, j'ai l'impression que c'est Qatari quoi, ça aime pas perdre. D'ailleurs, il y avait une affiche à Bastia en disant que Paris c'était que de l'argent, il n'y a aucune valeur. Attention, Bastia pourrait perdre aussi des points.
Banderole qui était très mal. Ils ont pas choisi le bon moment pour la mettre.
Il pourrait perdre des points, il pourrait prendre des amendes. C'est pas bon, sachant que le président de Bastia était aussi pointé du doigt, avait des affaires d'argent.
Il était en prison à un moment.
Oui. Donc ce sera tout pour la Ligue 1.
Et les trois relégués, ce sera les trois promus. Metz sera 18e, Lens 19e et Caen dernier. Pour
merci,
tout le monde.
Merci Valentin. On va passer donc avec la Ligue 2. Alors moi je pense sincèrement que Sochaux va finir premier. Il y a tous les atouts. Hormis que Stopila Sonzu devrait partir.
Il est parti
donc. C'est fait au moins.
En Chine.
Ce qui est dommage pour Sochaux, il ne serait pas quatrième s'il aurait.
Dans l'équipe de Francis Gillot.
En Chine.
Oui.
Je pense que si Sochaux est quatrième, c'est peut-être à cause de leur mauvais début de saison. C'était dur après la relégation. Ils auraient pu encore monter avec.
C'est justement ça qui
les
a retardés.
Avec Lens.
Parce que par rapport au recrutement, ils n'ont pas du tout une équipe construite pour la Ligue 1.
Je pense que s'ils n'auraient pas eu ce problème avec Lens, je pense qu'ils auraient été sur le podium à ce moment de la journée de la Ligue 2.
Il ne faut pas oublier que la quasi-totalité de l'effectif qui était titulaire en Ligue 1 est parti. Donc ils ont dû faire avec ceux qui jouaient remplaçants, ils ont dû faire avec de nombreuses arrivées.
Des joueurs sont restés, hein. Je pense à Yohan Pelé.
Yohan Pelé, Sunzu était resté, bon bah maintenant... Il est parti, donc il y a quelques joueurs qui sont restés, il y a des prêts et il y a 8 arrivées aussi. Béranguet notamment.
Florent Béranguet.
Béranguet de Dijon, c'était ça, je crois. Oui. Enfin, de nombreuses arrivées. Donc moi, je trouve ça encourageant. 3 finira deuxième. A appelé 3 a perdu Gimbert, mais ça reste une équipe solide défensivement. Ils l'ont montré contre Brest. Alors, dans les 3 premières places vont jouer. Hein, donc... certains rigoleront peut-être, mais moi je les vois capables. Laval, Dijon qui est quand même donc toujours
favori
malgré que là ils ont complètement perdu contre
du
tout.
Mal, ouais.
Voilà. Auxerre, équipe tout comme Laval, beaucoup de matchs nuls, mais qui reste solide. Et ils sont là où on ne les attendait pas. Puis bon, derrière il y a quand même un Valenciennes avec quelques points justement, qui sera à quelques points de ces équipes. Nancy, lui, 7ème, 8ème, ce serait Brest, étant donné qu'ils ont perdu Verdier. Ils ont l'intention de recruter, mais je ne vois pas cette équipe aller forcer un peu. Enfin, c'est...
T'oublies qu'il y a des joueurs comme Alphonse.
Oui, mais.
Qui sont capables de le.
Moi, je trouve que ce ne sera pas suffisant cette année. Angers, lui, alors Angers est 9ème. Hein, de toute façon, pour moi, c'est déjà fait. Hein, Angers ne montera pas. Du fait que Boufal ait été vendu pour 4 millions d'euros à Lille, donc ça fait un beau chéquier. Un beau chèque, pardon. Et le problème, c'est que Angers ne recrute jamais. Donc, qui pour le remplacer? Sûrement quelqu'un qui est sur le banc. Donc,
ça, le problème, si tu vends, faut recruter aussi.
Donc, du coup, ouais, Angers finirait au milieu de tableau. Dans la zone de relégation, donc Arles-Avignon resterait dernier. À égalité de points, ce serait Tours, 19e. La 18e place se jouerait entre Le Havre, Clermont et Orléans, qui seraient à égalité de points. Et donc, l'AC Ajaccio, lui, pointerait à 6 points. Il y aurait Nîmes, qui serait pas loin non plus. Et puis Châteauroux, qui pointerait à 2 points de la relégation, donc dans ces environs-là. Donc voilà pour mon classement pour la Ligue 2. Mais ça sera une deuxième partie très intéressante pour moi. On passe avec Enzo.
Donc pour moi, 3 qui est une équipe solide défensivement, comme tu l'as dit, Dylan, malgré le départ de Gimbert, qui est lui plutôt un attaquant.
Gimbert joue en attaque.
Oui, non, mais ça sera quand même déterminant.
Il est quand même important.
Ça sera déterminant. Donc 3 finira premier, 85 points. Deuxième, Brest, 80 points. Troisième, Sochaux, 78 points. 4e Angers, 71 points. 5e le JFCO d'Ajaccio. 6e Dijon. 7e Valenciennes. 8e Laval. Avec un grand nombre de matchs nuls, 23.
Tu vois la deuxième partie de saison identique à la première.
Oui, mais c'est une équipe qui n'arrive pas à gagner, mais qui ne perd pas. Donc...
pas facile, c'est vrai.
Vaut mieux prendre un point que de ne pas en prendre.
Il est vrai que c'est pas simple de pronostiquer pour Laval, qui a encore fait un match nul ce week-end.
Contre Clermont, ouais.
Maintenant, Clermont est une équipe solide à domicile, hein, avec son buteur Idriss Saadi.
Même s'ils avaient eu 0-0 en plus.
Oui. Et d'ailleurs, Clermont a eu le droit à un prêt. Le Rennais Ounou, qu'on avait déjà vu quelques matchs de Ligue 1, qui donc est prêté à Clermont. Donc un renfort important pour les Clermontois.
Célibur est parti.
Oui.
Donc 9e Nancy, 10e Auxerre, 11e Nîmes, 12e Orléans. 13e Ajaccio, 14e Niort, 15e Le Havre, 16e Créteil, 17e Clermont et 18e Tours, 19e Châteauroux, 20e Arles-Avignon. Donc les trois derniers, si mon classement est vrai, seraient les mêmes qu'actuellement.
Elliot.
Donc pour moi, 3 resteraient premier, toujours. Sochaux réussirait à remonter à deuxième place. La 3 et 4e place se joueraient entre... Brest et Dijon. Et en bas de classement, soit Niort, soit Créteil, soit Clermont descendraient au niveau de la 18e place, avec Châteauroux 19e et Arles-Avignon dernier.
Oui, donc pour l'instant, à peu près tous similaires.
À peu près les mêmes.
Au vu de ce que montrent ces équipes, On voit pas comment elles peuvent être
Valentin.
Mieux classées.
Bah, moi, Troyes serait champion de Ligue 2. Brest sera deuxième et Sochaux serait troisième. Et il va se jouer avec, avec Dijon, pourquoi pas Nancy, hein, qui peut encore venir.
Oui.
Puis dans les trois derniers, Tours serait 18e, Châteauroux 19e et Arles-Avignon 20e. On ne sait pas comment Arles-Avignon peut s'en sortir.
Arles-Avignon a encore recruté, notamment Fontaine du Havre. C'est pareil, il y a une équipe du Havre qui est très fragilisée en ce moment même, qui subit des départs, qui a des problèmes financiers et le dossier n'est pas encore passé devant la DNCG. On espère quand même avoir de grosses surprises hein, pour cette deuxième partie de saison en Ligue 2.
Hein, il y en aura.
Parce que d'après nos calculs, les classements restent à peu près similaires. Et on va terminer donc sur le national, qui pour moi, donc Paris, le Red Star et Strasbourg monteront. Hein, Colmar ratera la montée à quelques points. Dans la zone de relégation, ce sera donc Marseille, Consolat, Colomiers, Istres et en dernier, Épinal, qui aura recollé quand même à peu près aux équipes. Et au même nombre de points. Ta vision pour le championnat national, Enzo?
Pour moi, le Paris FC va monter, le Red Star également. Après, ça jouera pour moi entre Bourg-Péronnat et Avranches, qui sont deux très bonnes équipes. Et pour la descente, Colomiers, le Poiret survit malheureusement, équipe des Pays de la Loire, Istres et Épinal.
Moi, justement, j'ai pas mis le. Avranches a fait une première partie de saison exceptionnelle, mais je pense que ce serait trop prématuré de les voir monter tout de suite.
Après, il y a Boulogne qui peut être aussi.
Il y a Boulogne, voilà. Bourg-Péronnat, moi je les vois 7e, pareil, à quelques points du podium, oui. Après, c'est vrai que c'est pas facile, hein, mais il y a des équipes comme Dunkerque aussi, très solides pour monter. Chambly, c'est la petite surprise.
Strasbourg.
Amiens aussi, toujours en lice. Bon, il y a Chambly. Chambly, on va me dire, c'est pareil, ça serait prématuré. À la différence de Avranches, c'est que Chambly, c'est une équipe qui est soutenue par sa mairie, donc il y aurait besoin d'infrastructures, elles seront présentes, qui est soutenue financièrement, donc il y a de l'argent à Chambly pour aller en Ligue 2, et puis sur le plan de l'équipe, Chambly a recruté. En revanche, Avranches n'a pas beaucoup recruté, il a gardé un peu la même équipe, et moi je leur dis chapeau quand même pour la première partie de saison qu'ils ont fait, puisque je pense que le maintien est assuré pour Avranches.
Même si après,
pas enterrer quand même.
Très serré quand même le milieu de tableau de National.
Mais je ne les vois pas perdre tous leurs matchs et finir dans la zone de relégation.
Ça serait quand même une surprise.
Oui. En tout cas, pour moi, Paris FC est largement
supérieur.
Largement supérieur à toutes les équipes.
Qui jouait le maintien à l'avenir. Voilà.
Maintenant, il y a un petit problème, c'est que le stade ne se remplit pas. Donc, est-ce qu'il y aura un meilleur engouement du Paris FC en deuxième division? Je l'espère pour eux.
Et qui laisse leur avance et que Bourg-Péronnas aussi, puisqu'ils ont gagné ce week-end contre Bourg-Péronnas.
Oui.
Donc du coup, Bourg-Péronnas perd des points sur Paris FC, sauf que Paris FC, lui, en gagne.
Jusqu'à présent, le seul concurrent qui leur a véritablement fait perdre des points, c'est le Red Star, dans le derby où le Red Star s'était imposé, si je ne me trompe pas.
Et les stats qui sont quasiment similaires, hein, quand on voit que Paris FC marque 28 buts et le Red Star 27... C'est des stats qui montrent que les équipes sont équilibrées.
Maintenant, il y a des petits problèmes pour le Red Star à l'extérieur, ce qui fait la différence entre les deux équipes parisiennes. Elliot, donc...
Donc pour moi, un peu comme tout le monde, Paris FC est premier. Le Red Star, pour moi, serait deuxième. Bourg-Péronnas, troisième. Avranches passerait devant Boulogne, quatrième. Et Boulogne, cinquième. Après, derrière, ça bouge pas trop. Le Poiret survit, pour moi, ils vont réussir à se maintenir tout de même. C'est Colomiers qui va être à la 15e place. Après, derrière, ça change pas. Consola Marseille, Istres et Épinal 18e.
Moi, je vois quand même pas mal d'équipes, finalement, parce que vous voyez deux équipes parisiennes en tête. Ensuite, vous avez celle plutôt du côté de Strasbourg, avec Colmar et Chambly. Vous allez un peu plus haut, vous avez Amiens, Dunkerque, Boulogne. Et puis vous allez dans le sud, bon, vous avez Bourg-Péronnat qui est un peu tout seul en plein milieu de ce classement.
Avranches et Poiret survie qui sont à côté.
Oui. Pour terminer donc avec la nationale,
Paris FC se montre un avec Bourg-Péronnat. Boulogne serait 3ème, Red Star 4ème, Avranches serait 5ème, mais dans la zone de relégation il y aurait Bastia, Istres, Marseille, Consolat et Épinal.
Merci Valentin. Rien d'autre à ajouter sur ce week-end français? Non.
Non, débute.
Alors on va passer avec quelques résultats étrangers avec Enzo.
Et notamment la défaite de Manchester United 1-0 face à Southampton, avec un but de Tadic.
Triste pour Manchester.
Triste pour Manchester, encore une fois, qui était resté sur une dizaine de matchs d'invincibilité. Donc, c'était le meilleur d'Europe actuellement. Everton a tenu en échec Manchester City, un but partout. Chelsea s'est relancé face à Newcastle, 2-0. Au classement, Chelsea premier, deuxième Manchester City, troisième Southampton. Pour les trois derniers, Hull City 18e, 19e QPR et 20e Leicester. Et en Allemagne, donc ça n'a pas joué, mais on a appris le décès de Junior Malanda, qui était un jeune footballeur de Wolfsburg, espoir belge.
Donc en Italie, le Torino et l'AC Milan se quittent sur un match nul. Sassuolo et Udinese font pareil. Donc au classement, la Juve s'est imposée 3-1 contre Naples.
Pas mérité parce que Napoli les a bien tenus. Et c'est Vidal qui fait la différence en toute fin de match avec une magnifique frappe. Il n'a pas eu à forcer et il est sur son mauvais pied en plus.
Donc au classement, la Juve toujours premier avec 40 points. Suivi de la Roma à 1 point, deuxième.
43 points pour la Juventus après leur victoire.
43 points, oui, pardon. Donc la Roma deuxième, troisième la Lazio Rome. Et en bas de classement, 18e Cagliari, 19e Parme, 20e Cesena. En Espagne, le Real Madrid s'est imposé 3-0 contre l'Espagnol de Barcelone. Barcelone, lui aussi, s'est imposé 3-1 contre l'Atlético Madrid, avec, je trouve, 3 buts de l'Atlético Madrid qui sont donnés pour les Barcelonais.
Des buts de raccroupe, hein, si on peut le dire.
Le Celta Vigo et Valence ont fait match nul 1 partout, et Malaga et Villarreal aussi. Donc au classement, le Real Madrid premier, deuxième Barcelone, troisième l'Atlético Madrid, quatrième Valence, cinquième Séville, et au bas de classement, 17e Cordoue, 18e Corogne, 19e Grenade et 20e Elche.
Ce sera tout pour les compétitions étrangères, donc.
Oui.
Alors on va passer avec le Ballon d'Or.
Donc oui, le Ballon d'Or qui récompense le meilleur joueur de l'année 2014. Donc cette année, les trois qui sont élus pour le Ballon d'Or sont Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Donc pour vous, qui va gagner le Ballon d'Or ce soir à 18h30?
Pour moi, ce sera soit Neuer, soit Ronaldo. Maintenant, Neuer, c'est la première fois qu'il est nommé. En l'occurrence, Ronaldo, ça fait déjà pas mal de fois et il ne fait que confirmer ses performances match après match. Donc,
alors que Messi, lui...
C'est plus contestable. Hein.
On se demande à croire pourquoi il est encore dans le top 3.
Oui. Voilà.
Et c'est que par principe, je pense, oui, par favoritisme. Oui.
Un gars comme Thomas Müller qui a fait une Coupe du Monde exceptionnelle.
Qui a fait aussi une belle Coupe du Monde. Après, il y a des Français
après,
aussi.
On ne peut pas sélectionner tout le monde. Hein.
Non, mais Messi n'a
en
pas.
En France, on a peut-être un jour, on aura peut-être Pogba qui est l'espoir français
Varane.
Aussi, chaque année.
Varane, oui. Mais je trouve que là, cette année, voilà. Certes, l'année dernière, Messi. C'était normal qu'il soit élu, mais là, pas cette année.
En l'occurrence, Elir Neuer ne mettrait pas en image le poste de gardien, puisque Neuer a eu plus un rôle de défenseur à chacun de ses matchs plutôt que de gardien de but. Donc,
à chaque fois qu'on le voyait sur le terrain, il était plus libéraux que gardien.
Voilà, ce qui a coûté malheureusement moins d'action aux Algériens lors de la Coupe du Monde.
D'ailleurs, les Algériens méritaient de gagner.
Oui. Mais c'est dû à cet incroyable libéro du Bayern de Munich.
Donc pour toi Valentin, qui c'est qui remporterait le Ballon d'Or?
Manuel Neuer, déjà parce que c'est pour moi le meilleur joueur, et pour venger Ribéry de l'année dernière.
Ça doit jouer à très peu pour moi.
Bon, ce sera Neuer ou Ronaldo. Comme tu l'as dit Dylan, Neuer c'est la Coupe du Monde, c'est titre de Bundesliga, et Ronaldo ça a fait que confirmer son titre de l'année dernière. Puis,
donc pour moi ce sera aussi... Vas-y.
Non, vas-y. On a gagné avec des champions, donc
oui,
il
en plus.
Peut aussi être Ballon d'Or... Ronaldo.
Donc pour moi, ce sera, oui, comme vous dites tous, soit Neuer, soit Ronaldo. À mon avis, les votes seront très serrés entre ces deux-là. Après, comme on l'a déjà dit, Messi, je trouve pas que ce soit normal qu'il soit dans les trois premiers. Donc j'espère que ce sera pas du favoritisme et que ce sera un bon Ballon d'Or.
Après, si ça fait comme l'année dernière et que Messi se retrouve devant Ribéry, il y a encore un problème. Si là Messi devait terminer devant Neuer, c'est qu'il y en a qui n'ont vraiment rien compris.
Oui. C'est pour ça que je ne souhaite pas de favoritisme, juste pour le buzz et tout ça.
Alors nous devrions avoir Jean-Pierre Pasquier d'ici quelques minutes. Donc justement, on va parler du Mans avant de l'avoir. Donc l'équipe féminine s'est imposée en Coupe de France.
Très bonne nouvelle.
Oui.
Très bonne nouvelle.
Voilà, donc il affrontera Metz au prochain tour. Bonjour Monsieur Pasquier.
Oui, bonjour à vous, bonne année à vous et que vos projets personnels et professionnels se réalisent à tout niveau.
Merci, bonne année, bonne santé aussi à vous.
Bonne année.
Merci.
Bonne année.
Alors on va débuter donc avec le match qui s'est disputé au MM Arena il y a de cela quelques jours maintenant. Enzo va vous poser la première question.
Oui, bonjour. Quelles sont vos impressions sur ce match ?
Bah, écoutez, une impression de satisfaction au niveau de la réussite, j'irais, de la manifestation, qui est une manifestation sportive et qui voulait qu'elle soit festive. Elle y était puisqu'on s'est retrouvé à avoir plus de monde que prévu, donc plus de 6700 spectateurs, autant de personnes satisfaites à la fin du match puisqu'on a fait à peu près jeu égal. La différence, elle est uniquement sur des gestes techniques et la différence, elle est entre une des deux qui sont habituées à vivre des matchs intenses chaque week-end et une CFA2. On le voit d'ailleurs dimanche dernier. Tour qui va battre Dijon à Dijon 3-0, ce qui montre qu'ils n'avaient pas pris le match à la légère et ils nous ont battus normalement, mais on a montré aussi nos qualités pendant ce match et tout le monde était satisfait à la fin du match.
Oui, puisque pour y avoir été aussi, voir Le Mans, on a vu quand même une équipe assez dominatrice en deuxième période qui a montré finalement le niveau d'une équipe professionnelle, l'histoire d'un match finalement.
Non, on peut pas dire ça. On peut dire simplement qu'il y avait une équipe qui avait l'enthousiasme, l'envie et de voir aboutir, j'irais, tout le travail d'une début de saison accompli. Ils ont fait le maximum. Ils ont même marqué ce qu'il fallait marquer. Je pense que 3-0 était frustrant par rapport à la prestation de l'ensemble de l'équipe. On peut pas rougir par rapport à cette défaite. Elle est normale. Quand on prend ce que entre guillemets début casquette, on peut pas aujourd'hui prétendre à vouloir créer la surprise. Pour créer une surprise, il faut être à 100% dans tout domaine. Et là, on a pris quelques buts, mais on apprend. C'est au moins cet avantage de cette Coupe de France de pouvoir jouer contre des clubs professionnels. C'est la seule compétition qui nous permet de nous mesurer à ces équipes-là. Donc on l'a fait et je pense qu'on l'a fait honorablement. Maintenant, passons à autre chose puisque c'est le championnat qui est aujourd'hui le plus important.
Alors justement sur l'organisation donc de ce match, donc il y a eu certains petits litiges pour les bénévoles. Et moi, je retiens surtout un communiqué du club des supporters sud qui ont été un peu, je trouve, sévères avec le club, qui ont dit donc qu'ils attendaient une organisation à la hauteur, mais rien n'a été fait. Le prix des places, qui pouvait aller jusqu'à 20 euros, qui a du coup énervé beaucoup de personnes, que la sécurité n'était pas présente, que l'ouverture des guichets puis des portes a été tardive. Je vois encore surpris des réactions des secours sur un malaise survenu dans leur zone. Il a été difficile de trouver personne pour alerter la Croix-Blanche, ceci n'étant pas suffisamment nombreux pour le nombre de spectateurs. Ou encore par rapport à une zone VIP pour un pot qu'ils auraient voulu organiser, dont ils n'ont pas pu. Pas mal, donc c'est un peu sévère. Qu'en pensez-vous de leur communiqué ?
Bah écoutez, j'entends vos propos, je lis pas moi tout ce qui peut être mis sur les réseaux sociaux, sinon je me mettrai une balle dans la tête, déjà dans un premier temps, que j'assume tout ce qui aurait pu être dit, mais surtout pas ce que j'entends, parce que là je crois que c'est trop facile, donc je suis pas sûr qu'en quelques minutes on va pouvoir tout dire. Moi ce que je peux simplement vous dire qu'aujourd'hui, c'est que dans un premier temps, lorsque nous avons eu le tirage de Tours, on s'est tous dit c'est le plus mauvais tirage. Pourquoi ? Parce que c'est une équipe professionnelle de Ligue 2 qui se trouve être 19e dans le championnat, qui fait grosso modo entre 4000 et 5000 spectateurs de moyenne et encore à Tours, et que si on avait rencontré une belle équipe de Ligue 1, le problème serait réglé, c'est-à-dire qu'on aurait demandé tout de suite à LMS, donc Le Mans Stadium, de pouvoir jouer ce match-là chez eux et en leur demandant de prendre les clés de la maison et de gérer, ce qui nous aurait coûté un billet de 100 000 euros à la louche, entre guillemets, ou 80 000 euros, peu importe, c'est pas la somme la plus importante. Moi, ce qui aujourd'hui je ressors, c'est que quand on tombe contre Tours, on est obligé, en tant que dirigeant responsable, ayant vécu une galère, comme vous le savez, avec la liquidation de la SASP, de calculer et de bien représenter qu'un sou est un sou et que je ne peux pas dépenser l'argent que je n'ai pas. et je ne vais pas encore demander aux contribuables d'alourdir, j'irais, des dettes si éventuellement ils pensent que ce sont des dettes qui peuvent arriver. Donc aujourd'hui, nous savions ce que ça représentait le fait de jouer contre Tours. Nous avons mis tous les indicateurs inimaginables pour essayer de comprendre et d'essayer de savoir combien de spectateurs nous pouvions avoir. Et il s'avère qu'avec le temps qui n'était pas aussi clairvoyant que cela, le nombre de spectateurs, où quand j'annonçais si on joue entre 4500 et 5000, ça serait bien, tout le monde me rigolait au nez, y compris les supporters, qu'on ne pouvait pas aujourd'hui imaginer qu'on allait avoir le jour même, à l'instant T, plus de 4000 spectateurs venir en une heure d'intervalle. On a fait ce qu'il fallait pour communiquer en utilisant la presse locale et régionale, en demandant aux gens de venir s'abonner, qui nous aurait permis de pouvoir réserver peut-être d'autres places, puisqu'on était en étroite relation avec la Fédération française de football. Quand je lis également qu'on reproche à la Fédération des revendications, ce qui est entièrement faux, la Fédération française nous a toujours aidés dans ce domaine, et le matin même, on était encore en contact avec eux pour savoir si on ouvrait un peu plus ou pas. On a pris la décision de ne prendre que 6000 spectateurs, enfin 6000 places assises, tout simplement parce que dès que vous sortez de ce chiffre de 6000 personnes, vous êtes obligé de demander une dérogation auprès de la préfecture, et cette dérogation vous oblige à avoir des voies publiques privées, donc avoir de la gendarmerie sur les voies, d'avoir de la sécurité pour tout ce qui est infirmerie et autres. Et ça vous emmène systématiquement à un billet qui représente entre 15 000 et 20 000 euros. Ce qui veut dire que si vous vouliez rentabiliser un stade de 8 000 ou 9 000 personnes, vous étiez obligé de perdre de l'argent. Donc avant de faire et avant de dire oui au LMS, on a regardé si on n'avait pas d'autres possibilités, que sont des clubs aux alentours, comme La Flèche, comme Sablé, comme La Suze, et pourquoi pas à Tours. Et on a quand même pris la décision de dire oui, on fait ça au MMS, au Le Mans Stadium. Politiquement parlant, on ne pouvait pas le faire. Même pour nos spectateurs, il fallait qu'on le fasse à une seule condition, c'est de ne prendre que ce chiffre de 6 000, sinon ça nous engendrait des sommes d'investissement beaucoup plus importantes. Donc ça, c'est le premier point. Après, eh bien, on assume. Alors c'est vrai que pour les gens, on a un stade de 25 000, on doit être à même de remplir 25 000. Sauf que si on a loué que 8 000 personnes, comme ça aurait été le cas, on aurait perdu de l'argent. Aujourd'hui, je suis un homme responsable, intègre, et qui permet de dire aujourd'hui, le but c'est de faire un match où tout le monde se fait plaisir et où on peut gagner de l'argent. Et on n'a pas perdu d'argent, on en a un peu gagné, puisque grosso modo, il va nous rester un billet de 8 000 à 10 000 euros. Et je crois que c'est le plus important par rapport à tout ce qui se passe. Alors, après, les supporters, je respecte ce qu'ils disent, sauf que je ne suis pas du tout d'accord. Quand c'est eux qui, le matin même, nous demandent de louer une salle, sachant que ça fait 15 jours qu'on leur a mis à même et qu'ils n'ont jamais répondu, qu'on leur a proposé de louer des billets avant tout le monde pour que justement ils puissent venir tranquillement, ils l'ont jamais fait. Enfin bon, c'est pas mon but de polémiquer, c'est pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, je fasse autre chose. Je regrette deux choses. Un, de voir des gens partir du stade parce que ils n'ont pas eu la possibilité d'acheter leurs billets parce qu'on n'avait pas les cartes bancaires utilisables, donc on n'avait pas le terminal pour le faire, parce qu'on était tous en manuel. Je regrette que des gens de Tours viennent et qu'ils puissent repartir avec les enfants parce qu'ils auraient pensé pouvoir faire une fête, ils ne l'ont pas fait, ça je regrette. Je regrette bien entendu ceux qui sont rentrés comme cela, et ça représente que 500 spectateurs, on est à peu près à 538 spectateurs en grand maximum, et je regrette que ça se termine et que les gens ne revoient que ce genre de situation. La critique est facile, ceux qui ne sont aujourd'hui que derrière un bureau en train d'écrire dans des réseaux sociaux, c'est beaucoup plus simple que se prendre en charge, y compris ceux qui sont à la direction de certains clubs de supporters.
En tout cas, moi je vous remercie parce que j'ai passé un très bon moment au stade, et je me suis fait plaisir, donc...
Il faut remercier les joueurs, c'est aux joueurs surtout qui sont aujourd'hui maîtres. Vous savez, quand vous voyez une belle pièce de théâtre, ce sont les acteurs, ce n'est pas les spectateurs et pas ceux qui mettent en scène la pièce. Donc vous pouvez remercier les joueurs, c'est vrai qu'ils ont fait plaisir.
Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez pourquoi les deux clubs de supporters étaient dans la même tribune au moment du match ?
Oh, c'est très simple aussi, tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous avez des réglementations qui se font au niveau de la Fédération française de football, que vous avez deux clubs qui, aujourd'hui, étaient Tours et Le Mans FC, qu'aujourd'hui, on a distribué donc 6000 personnes, 6000 places assises, et sur 6000 places, il y avait trois zones. Une zone, de première catégorie, une zone intermédiaire et une troisième zone qui était derrière les buts. Or, les supporters étaient donc tous derrière les buts, que ce soit Tours ou que ce soit le Sud du Mans, et on ne pouvait pas mettre les deux clubs de supporters à des endroits différents que derrière les buts. Et comme vous avez une zone sud, qui est les supporters sud qui sont au milieu d'une zone, les décalés pour ce match-là auraient été encore un fiasco au niveau de la communication. Donc on les a laissés là et on a demandé à l'autre club de supporters de se mettre un peu plus à gauche vis-à-vis d'eux. Ne perdez pas de vue que pour les virages sud, ça représente 98 personnes et pour les virages nord, ça représente à peu près 40 personnes. Donc je crois qu'aujourd'hui, quand on est devant 6700 spectateurs, les questions qui représentent que 70 ou 80 personnes, je crois que c'est un peu superflu, donc on va passer à autre chose.
Enzo va poser une question.
Au niveau du recrutement, quels sont vos projets ?
Écoutez, il n'y a pas de recrutement aujourd'hui prévu, tout simplement parce qu'on a un groupe aujourd'hui qui existe et qui est compétitive. J'en prends la preuve le match de samedi dernier où nous perdons contre les premiers Châtellerault 3-1. On a dominé, alors c'est vrai qu'on perd, mais on a dominé les débats de A à Z, ce qui prouve que les joueurs sont bien présents. Il faut simplement un peu de confiance, il faut un peu d'huile un peu dans le moteur pour que ça puisse bien être harmonisé. Et aujourd'hui, si on a une opportunité d'une personne capable de nous proposer son savoir, sa compétence et ça coûte rien au club, je regarderai et on gardera bien entendu un œil assez ouvert la possibilité de le recruter, mais à ce jour, on n'a pas les moyens. On a d'abord le budget à boucler, on a le budget à prévoir pour l'année prochaine, avec une vision qui est aujourd'hui CFA2, CFA, et aujourd'hui le recrutement, il n'a pas de raison d'être au niveau du club.
D'accord. Alors,
au niveau des garçons.
Le temps nous manque malheureusement. Alors je vais avoir juste. Donc on va pas pouvoir poser toutes nos questions malheureusement.
Oui.
Mais du coup j'ai juste une question, j'aimerais que vous y répondiez très rapidement. C'était par rapport au site internet. Quand sera-t-il mis en œuvre?
Alors on fait tout et on y était encore samedi matin dès 8h. On doit, si tout se passe bien, fin mars il est prêt. Et si les tests que nous mettons en place soient réalistes et fiables, on devrait le faire pour début mars.
D'accord. Bon, bah, nous vous remercions. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir en fin de saison pour un autre interview.
Eh bien, écoutez, et puis excusez-nous de ce retard par rapport à ce que j'avais prévu en début d'après-midi. Mais bon, il y a des obligations qui se font à l'intérieur de la pince arrière. Comme vous le savez, on a des priorités. On a une équipe des deux filles qui va jouer donc les 16e de finale de Coupe de France contre Metz, et on est en train de le préparer, de l'organiser, et on a notre premier match qui va se réaliser le 25 janvier sur notre terrain en herbe, et donc ça sera notre inauguration de notre terrain en herbe à la pince arrière. Donc beaucoup de travail encore en perspective pour réussir notre projet qui est remettre le club à son vrai niveau.
Merci beaucoup Monsieur Pasquier, on vous souhaite une excellente fin de saison et on espère tous que Le Mans montera s'il en a l'occasion.
Au revoir, bonne saison.